Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. C'est le printemps, alors parlons fleurs, même si mon invité va sûrement nous dire qu'il n'y a pas de saison pour en offrir. Mon invité, justement, c'est Romain Raffard, le fondateur de Bergamote. En 3 ans seulement, cette start-up est devenue incontournable dans la livraison de fleurs et de plantes vertes. Porté par des envies de green dans nos maisons et nos bureaux, Romain fait partie de ces nouveaux fleuristes qui ont réveillé le marché en proposant sur Internet, à la carte ou sur abonnement, des plantes et des bouquets de fleurs de saison, créatifs, raffinés, frais et livrés en un éclair, dans un joli packaging s'il vous plaît. Un homme qui va nous parler fleurs, on n'allait pas rater cette occasion. Bonjour Romain.
Bonjour Hortense.
Alors je viens de le dire, vous avez un peu bousculé les codes de la livraison de fleurs en France. C'est pas quelque chose de nouveau, la livraison de fleurs, ça existait déjà avec des acteurs qui étaient bien installés. Qu'est-ce que vous, Bergamote, vous avez réinventé concrètement? Quels sont les plus que vous avez voulu apporter par rapport à vos concurrents historiques?
C'est pas nouveau du tout, vous avez raison. C'est d'ailleurs la livraison de fleurs, l'un des premiers usages d'Internet à partir de 1995. On s'est simplement dit qu'on avait des vraies capacités de refaçonner en profondeur ce marché-là. Ça commence d'abord par le sourcing. C'est un marché qui est assez opaque. Une fleur qui est récoltée le lundi, elle est généralement sur les étals du fleuriste à partir du vendredi. C'est quand même un comble pour un produit qui est extrêmement périssable. Donc la première des missions qu'on a eues, c'est de simplifier le système d'achat des fleurs en circuit court, directement auprès de nos producteurs. Aujourd'hui, une fleur qui est coupée le lundi matin, elle est chez nous le lundi soir. Donc il s'est passé à peine 18 heures entre la coupe et la réception dans nos ateliers. La deuxième chose qu'il a fallu refaçonner en profondeur, c'est le côté sexy du bouquet. C'était un acte qui devenait un peu désuet, un peu passé, intimidant pour les hommes. Et donc on s'est dit, il faut rétablir une bonne dose de sex appeal dans ce métier-là. Et comment on a fait ? On a tout simplement calqué les préceptes de Zara, par exemple, en mettant en place des systèmes de collection en accord avec les saisons, au gré de nos envies et de nos inspirations. Des collections qui durent entre 2 et 3 mois, avec des gammes super restreintes de bouquets, 10-12, des capsules, des last calls, vraiment calqués sur les principes de la mode, pour créer une variété de l'offre qui soit extrêmement importante et qui permette aux clients de se retrouver au fil des mois sur le site avec cette offre et pouvoir profiter de fleurs tout au long de l'année. Voilà. Ensuite, c'est bien sûr le troisième point, c'est des collaborations. C'est un métier qui est très enfermé. Essayez de me citer un meilleur ouvrier de France, fleuriste Hortense, je pense que vous n'en connaissez pas malheureusement.
Non.
Donc on s'est dit tout de suite, il faut faire venir des sensibilités artistiques différentes. C'est ce qu'on a fait très vite avec Sarah Lavoine notamment, ou avec Pierre Hermé, ou encore Morgane Cesalori, c'est apporter une sensibilité artistique au monde des fleurs qui soit un peu différente pour que l'effet créatif soit le plus intéressant possible. Et puis bien sûr, l'expérience n'était pas complète sans la partie qu'on appelle nous l'unboxing, c'est-à-dire la réception du bouquet. C'est un acte qui n'est pas anodin, c'est extrêmement important parce que ça éveille tous nos sens. Et donc on a travaillé sur un emballage qu'on appelle le cône, qui est un modèle breveté et qui permet en fait de susciter l'intérêt du client dès la réception. Et puis après, toute l'expérience qui s'ensuit, le SMS que vous recevez qui vous prévient de la surprise, l'ouverture du bouquet, ça sent bon, c'est frais, c'est coloré, c'est joyeux. La petite photo que vous avez la possibilité de joindre à votre bouquet avec le petit message personnalisé. Voilà, tout ça en fait refaçonne finalement en profondeur cette expérience client qui était totalement absente.
Réponse hyper complète, donc on va revenir comme ça sur les différents points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement dans votre fonctionnement, comment vous arrivez à livrer en 2 heures à Paris, un bouquet qu'on commande à 11h le matin, on peut l'avoir à 13h, et le lendemain en province. Comment vous êtes organisé? D'où viennent les fleurs et où est-ce qu'elles sont stockées?
Ouais. Très simplement, nos fleurs viennent majoritairement du Var, donc il y a un très beau marché aux fleurs à côté d'hier, et des Pays-Bas. ça dépend des saisons, mais l'hiver, on va être plutôt à moitié de sourcing en France et la moitié aux Pays-Bas. Et l'été, ça va être plutôt l'inverse. On va être à 80% de sourcing aux Pays-Bas et à peine 20% en France. On commande 4 fois par semaine. Les fleurs arrivent donc dans la nuit, suivant la commande. Elles sont stockées dans une chambre froide, dans nos ateliers à Paris et à Clichy. Et le lendemain matin, nos fleuristes commencent vers 6 ou 7 heures, commencent déjà à préparer les bouquets au fil des commandes. Et ensuite, on a des livreurs qui viennent à vélo, en scooter, en voiture, récupérer les commandes tout au long de la journée pour les livrer 6 jours sur 7, entre 11h et 21h. Donc c'est un sacré défi logistique, évidemment, parce que la plupart de nos commandes, 70%, sont passées pour le jour même. Donc on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé le lendemain, si on va faire 200, 400 ou 800 bouquets dans la journée. Donc il faut être prêt technologiquement pour accueillir de tels volumes. Il faut être prêt humainement, avec des super fleuristes qui soient dispo en temps réel. Et il faut surtout être extrêmement bien organisé avec nos livreurs pour être capable de garantir cette promesse client, qui est d'ailleurs garantie dans 97% de nos livraisons. Voilà.
Mais du coup, vous avez beaucoup de stock ?
On a très peu de stock parce qu'on te commande 4 fois par semaine, ça veut dire 4 livraisons. Et l'ambition et le gage qualité de Bergamote, c'est de vous dire que les fleurs, on les garde maximum 48 heures chez nous.
Et vous en faites quoi après ?
Alors, si elles ne sont pas vendues, c'est très rare. Donc, on a un peu de casse, 5%. Et ensuite, on peut avoir de la perte, mais c'est très, très limité. C'est entre 2 et 3%. On donne nos invendus au Palais de la Femme, qui est une association pour femmes battues dans le 11e, qui est gérée par l'Armée du Salut. Et on travaille depuis récemment avec une application qui s'appelle Too Good To Go, qui travaille principalement avec l'alimentaire, et qui permet en fait de faire des petits paniers fleuris pour des prix très modiques de 5-6 euros, une fois que les dates de péremption bergamote sont dépassées.
Donc vous, vos fleurs sont fraîches. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait que parfois on achète des fleurs qui tiennent 10 jours et parfois elles tiennent 2 jours? Est-ce que ça vient de la qualité de la fleur ou c'est la faute de l'entretien?
Alors, c'est une réponse assez complexe. Pour moi, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est évidemment la qualité du producteur. La qualité de la semence, la qualité de l'entretien, la qualité de l'ingénieur agronome qui va suivre la culture tout au long de la vie de la fleur. Et ça, forcément, ça a une incidence directe sur la tenue en vase de la fleur. On prend l'exemple de la pivoine. Vous avez des pivoines qui durent 3 jours et des pivoines qui peuvent durer 10 jours facilement. Ça dépend principalement de la qualité de la pousse et donc du travail, du savoir-faire du producteur. Donc nous, notre premier métier, c'est de sélectionner les producteurs qui sont pour nous les plus qualitatifs, les plus respectueux de l'environnement et qui respectent notre cahier des charges en termes de durée d'entretien. La deuxième partie, c'est la qualité du transport. Il y a beaucoup de fleurs qui sont acheminées en carton, c'est-à-dire sans eau. Et quand vous cassez le cycle d'hydratation d'une fleur, forcément, ça a un impact sur la durée en vase. Chez nous, la fleur, à partir du moment où elle est coupée, elle va dans un seau et elle reste dans ce même seau tout au long de son long voyage jusqu'au client. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir respecter le cycle d'hydratation de la fleur. Et le troisième point, c'est évidemment l'entretien chez soi, qui est un peu là où le bât blesse parfois.
Faut changer l'eau du vase ou pas ?
Idéalement 3-4 jours, ouais. Les plus aguerris vous diront 2 jours, mais je pense que 3 ou 4, c'est tout à fait acceptable. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas de bactéries qui vont se développer dans l'eau, sécrétées par la tige elle-même. Et donc forcément, ça a tendance à limiter la capacité d'absorption de la tige. Et puis évidemment, s'il fait 38 degrés chez vous, ou que vous mettez ça près du radiateur ou près d'un courant d'air, ça va limiter la capacité du bouquet à s'épanouir, bien sûr.
Alors si j'ai bien compris, vos concurrents historiques, ils travaillaient avec un réseau de fleuristes, alors que vous, vous avez une équipe en interne. C'est bien ça ? Si je commande un bouquet et que j'habite Nantes, c'est quand même votre atelier parisien qui réalise le bouquet et qui le livre.
Tout à fait. On a beaucoup hésité sur le modèle au départ. Est-ce qu'on fait appel à des fleuristes indépendants, partenaires, ou est-ce qu'on fait tout nous-mêmes ? La réponse a été assez rapide, on fait tout nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que, en fait, les anciennes concurrentes vont avoir des catalogues assez larges de bouquets, 50, 60, 70 bouquets. Et évidemment, le fleuriste en question qui va réaliser la commande à Nantes n'a pas forcément ce stock extrêmement important en sa possession. Et donc, son obligation, c'est de respecter l'équilibre général du bouquet. Sauf que quand vous achetez un jean en taille 38 délavé, vous ne vous attendez pas à recevoir un jean en taille 34 rose fuchsia. Et c'est un peu la même chose pour les fleurs. Et donc notre leitmotiv principal, c'est vraiment de vous dire ce que vous achetez, c'est ce que vous allez recevoir. À l'ère d'Internet et aujourd'hui avec l'exigence des clients, ça nous paraît éminemment important. C'est d'ailleurs presque indispensable. Et donc c'est pour ça que faire soi-même avec nos propres fleuristes, nos propres stocks de fleurs et nos propres livreurs, c'est quand même beaucoup plus simple pour être capable de garantir une vraie conformité dans l'exécution de la commande, et une vraie qualité, une vraie fraîcheur des fleurs pour que les clients puissent en profiter le plus longtemps possible.
Pourtant, c'est pas rare, si je peux me permettre, de recevoir un bouquet de fleurs qui correspond pas vraiment à ce qu'on a vu sur Internet. C'est pas le cas chez Bergamote, alors?
C'est pas le cas chez Bergamote. 100% des bouquets que vous commandez sont les bouquets que vous avez vus en photo sur le site Internet. Et c'était vraiment le postulat de départ en disant, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais what you see is what you get.
Alors, l'une de vos spécificités, c'est aussi le Flower Club. Mm-hmm. C'est un abonnement dont on choisit la formule. On peut recevoir un bouquet tous les mois, ou deux, ou quatre. On choisit aussi la taille, la durée de l'abonnement. C'est pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises qui veulent fleurir leur bureau. Ça, c'est très nouveau. Pourquoi avoir développé ça ?
On a développé ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de clients qui étaient extrêmement récurrents, très fidèles, et qui nous disaient tous les mois, Bergamote c'est sympa, mais je dois toujours rajouter mon adresse de livraison, renseigner ma carte bleue, c'est pénible, est-ce que vous ne pourriez pas créer une offre un peu plus automatisée pour nous ? Donc le principe de départ, c'est vraiment, il émane vraiment des clients. Et l'idée, c'était de se dire, il y a deux usages pour les fleurs, il y a le cadeau. Ça, c'est plutôt une commande one-shot qu'on va effectuer X fois dans l'année pour sa maman, pour sa tante, pour son mari, pour sa femme, pour peu importe. Et puis ensuite, il y a la consommation personnelle. Et il y a de plus en plus de clients qui finalement se rendent compte que les fleurs, ça fait du bien, que c'est hyper agréable, que ça illumine à l'intérieur. Et donc, par conséquent, avoir des fleurs de manière extrêmement souple, toutes les semaines, toutes les deux semaines, à un prix compétitif, et qui soit en plus jolie sans se prendre la tête, c'était pas si mal. On a lancé le club en mars l'année dernière, donc c'est assez récent. Et dans ce club, en fait, on essaye vraiment d'enrichir cette expérience-là. Donc, quand vous êtes membre du club, vous avez des invitations à des soirées chez nous, pour des masterclass autour des fleurs, autour des plantes, autour des fleurs séchées. On fait une collab tous les mois avec des marques sympas pour vous offrir des petits goodies rigolos. Le mois dernier, on a travaillé avec une marque de Los Angeles qui s'appelle PF Candles, qui fait des super bougies végétales en terre cuite. Donc, les abonnés, les membres ont pu avoir en avant-première ces produits-là. Ils reçoivent tous nos produits en avant-première. Donc, toutes les collections, les capsules sont reçues par les membres deux semaines avant tout le monde. Donc, voilà, il y a aussi un sentiment d'appartenance qu'on n'a pas dans une box, par exemple, et qui permet d'avoir une vraie cohésion autour de nos membres. On a aussi un jungle club pour les amateurs de plantes, sur une formule qui est plus standard, c'est une seule fois par mois. Et au début, on nous a dit non, mais les plantes, ça ne va jamais marcher. Les gens, ils achètent ça deux fois par an, pas plus. Ils ne vont pas recevoir des plantes non plus tous les mois. Bah, figurez-vous que ce n'est pas si mal que ça. Hein. C'est 20% de nos membres. Et en fait, il y a une vraie communauté de jungle addicts, donc de plantes addicts qui se développent autour de cet univers-là. Et aujourd'hui, on a été vraiment le premier abonnement de plantes au monde à être lancé. On est super contents des résultats et de l'expérience qu'on offre à nos clients.
Alors vous misez aussi beaucoup sur les entreprises, avec cet abonnement notamment, et puis ça facilite pour fêter un collègue, un pot de départ. Vous proposez aussi des créations sur mesure. Vous avez senti aussi qu'il y avait une demande pour ça ?
Il y a une vraie demande. Ça fonctionne aujourd'hui super bien. On travaille sur trois axes principaux. Le premier, c'est la fidélisation des clients. Ça, c'est éminemment important aujourd'hui pour les marques. Donc, on peut travailler avec la Redoute, par exemple, sur ses 5000 meilleurs clients et leur envoyer un bouquet par an. Cézanne avec les clientes perdues. Donc, ça marche très, très bien. On fait évidemment aussi des briefs sur mesure pour des lancements presse, des lancements produits, des événements particuliers. Ça, c'est évidemment extrêmement spécifique et ad hoc pour chaque marque. Et ensuite, on travaille aussi, bien sûr, sur le bien-être en entreprise. Et ça, c'est plutôt avec les plantes. L'idée est de se dire qu'avoir un environnement de travail apaisé, c'est important aujourd'hui, à l'ère des open space et des coworking. Et par conséquent, les plantes aident énormément à créer finalement du bien-être et de l'apaisement en entreprise. Ça améliore la productivité, la concentration, et donc c'est un élément décoratif qui devient de plus en plus important pour les entreprises.
Vous créez des collections qui évoluent au fil des saisons, donc s'il y a 4 saisons, il y a 4 collections, j'imagine.
Donc, absolument.
C'est avec une série de bouquets, c'est bien ça. En gros, vous n'avez pas de best en fil rouge sur toute l'année sur le site.
Non, on n'a jamais voulu faire ça. Pourtant, c'est réclamé par les clients, mais vraiment, on essaye de travailler au maximum au gré des envies des clients et au gré des saisons. On a 4 collections principales, effectivement, printemps, été, automne, hiver. On a aussi des capsules pour des produits super spécifiques qu'on adore et dont la saison ne dure pas autant que le printemps ou l'été. C'est le cas de la pivoine qu'on va lancer la semaine prochaine. La saison de la pivoine, c'est un mois et demi, donc c'est ultra court. Et c'est pour cela que on fait des capsules pour ça. On fait aussi des last calls, notamment sur les fins de saison, pour la renoncule par exemple, qui est notre fleur préférée chez Bergamote, qu'on adore proposer tout l'hiver. À partir du mois de mars, on fait une série de last calls sur la renoncule. Ça nous paraît important. Puis ça nous paraît important de respecter les saisons, respecter la disponibilité des fleurs. Et donc forcément, la roadmap produit s'intègre, s'articule autour de ces saisons.
Est-ce qu'il y a des bouquets qui fonctionnent quand même mieux que d'autres ?
Alors, il y a des best-sellers qui vont fonctionner dans plusieurs adaptations toute l'année. Clairement, Bergamote, c'est le bouquet pastel. Donc, le rose fonctionne très bien, le pêche, le vieux rose, le corail. C'est des éléments visuels qu'on décline énormément. La rose, bien sûr, et notamment une rose qu'on appelle la rose branchue. Donc, c'est une rose qui a plusieurs boutons, avec laquelle on a un partenariat d'exception avec un producteur. On est les seuls au monde à pouvoir les vendre sur Internet. Et c'est vraiment la marque de fabrique aujourd'hui de Bergamote. Après, évidemment, le bouquet champêtre fonctionne toujours très bien. On essaye plein de choses, des bouquets exotiques, des bouquets monochromes, des bouquets monovariétés. Voilà, on adore créer de la variété, de la richesse tout au long des collections. Mais globalement, un bouquet Bergamote, c'est plutôt un bouquet pastel. C'est plutôt un bouquet classique. 3, 4, 5 fleurs maximum différentes, et ensuite une variation de couleurs autour de ces pastels.
Parce que j'allais vous demander, on entend souvent que vous proposez des compositions dans l'air du temps, vous avez des bouquets qui sont parfaitement dans la tendance. C'est quoi un bouquet tendance justement ? C'est quelle forme, quelle fleur ? C'est un peu un mélange de tout ce que vous venez de nous dire ?
C'est un peu un mélange de tout ça. Nous, la base, c'est qu'on doit avoir au moins une fleur noble qui vient composer le bouquet. Ça, c'est la base de notre travail. Donc, en fonction des saisons, ça peut être la pivoine, ça peut être la renoncule, l'anémone, l'hortensia, les jonquilles, les narcisses, les dahlias. Et ensuite, on va construire une gamme de couleurs autour de ça. Donc, en fait, le travail de pré-collection, c'est essentiellement un travail de mood board. On va énormément rechercher des inspirations sur Pinterest, sur Instagram, sur des cahiers de tendance. Et ensuite, on va construire le bouquet autour de cette fleur noble et autour de cette déclinaison de couleurs qu'on a envie d'offrir. Donc, on travaille très peu de fleurs. Hein. Finalement, dans une collection, on va bosser 20 à 25 fleurs maximum. Et à chaque collection, on renouvelle l'intégralité des fleurs. Ce qui est un risque important. On a l'impression qu'on finalement remet tout ce savoir-faire et cette expertise en jeu à chaque fois, en disant, oh là là, est-ce que ça va se vendre ? Est-ce que c'est suffisamment bien ? Est-ce qu'on a suffisamment bossé pour celle-ci ? Donc finalement, c'est un peu la même appréhension qu'un designer de mode, hein, à chaque nouvelle collection. Mais finalement, on retrouve les mêmes composantes tout au long de l'année. Et depuis 3 ans, on a emmagasiné une jolie expérience quand même. Donc on fait de moins en moins d'erreurs, même si ça nous arrive toujours de nous planter royalement. C'est le cas de le dire.
Comment vous trouvez le nom des bouquets ? J'ai l'impression que ce sont plutôt des lieux. Il y a Alpi, ouais. Chantilly, Figari. Pourquoi des lieux pour les bouquets ?
Alors, parce que je pense que c'est mon influence voyage. Hein. J'étais dans le voyage avant, j'adore ça. Je suis vraiment un voyageur averti. J'ai moins le temps maintenant, mais... Et on s'est dit que finalement, cet univers-là était infini. Et en fait, on s'est un peu calmé cette année, mais globalement, on lance entre 200 et 300 nouveaux bouquets par an et 100 à 150 plantes. Donc, si on reste autour de l'univers littéraire ou l'univers des prénoms, on allait quand même relativement vite tourner en rond. Et le voyage est infini. On essaye à chaque fois que le nom du lieu ait un lien avec le bouquet. C'est pas forcément évident, mais quand on va avoir des tonalités blanches, on va plutôt travailler sur des villes ou des lieux qui vont nous évoquer le Grand Nord. Quand c'est très champêtre, ça va plutôt être des tonalités qui vont nous évoquer la campagne. Quand c'est plutôt classique, on va se rabattre sur des quartiers ou sur des villes. Donc voilà, c'est vraiment pensé à chaque fois. C'est pas le fruit du hasard. Et en fait, on adore cette juxtaposition entre le lieu, l'évocation du lieu et le bouquet.
Sur les fiches des bouquets, sur votre site internet, il y a la liste des fleurs qui composent le bouquet et leur origine. Mmh. C'est important, ça ? Votre client, il est friand de ce genre d'informations ?
Alors, c'était pas important au départ, mais on est persuadé que dans les 5-10 prochaines années, ça va être le critère principal d'achat. Les fleurs ne se mangent pas, donc finalement, on n'a pas la même traçabilité qu'on peut avoir dans les fruits et légumes. Un kiwi, vous savez d'où il vient, même chez Carrefour. Donc on a pensé tout de suite que c'était hyper important d'être transparent. Parfois, on achète des fleurs qui viennent du Kenya, on n'a pas honte de le dire, parce que c'est des producteurs qui sont hyper vertueux, respectueux de l'environnement, respectueux des normes sociales. Et donc, on veut simplement communiquer en toute transparence auprès de nos clients, à la fois sur l'origine des produits et à la fois sur la composition exacte du bouquet. On en parlait tout à l'heure, la conformité absolue entre ce que vous voyez à l'écran et ce que vous allez recevoir. Donc, on va du nombre de tiges, en passant par le diamètre, la hauteur du bouquet et le nom de chaque producteur.
Pourquoi les fleurs coûtent si cher, même si un bouquet chez vous est vraiment au bon prix? Pourquoi chez certains fleuristes c'est hors de prix? Et pourquoi on peut trouver un bouquet à 7,90€ chez Carrefour dont vous parliez tout à l'heure?
Il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que plus on est petit, plus la capacité d'achat est faible. Donc plus le pouvoir de négociation avec les producteurs est faible. Plus on est petit et plus on doit passer par des intermédiaires. Parce que forcément, si vous achetez 50 roses par jour, vous ne pouvez pas travailler en circuit court avec un producteur de roses qui demande au minimum 1000 ou 2000 roses. Donc ça veut dire passer par des intermédiaires. L'intermédiaire, c'est 20 ou 25% de commission à chaque fois. Donc forcément, le prix grimpe au fur et à mesure des intermédiaires. La deuxième raison, c'est qu'un fleuriste traditionnel en boutique a de la perte, c'est normal. Il est obligé de proposer une variété et une gamme importante à ses clients, parce que Madame Leclerc, elle est plutôt jonquille, et Madame Lefebvre, elle est plutôt renoncule, fuchsia. Et par conséquent, on estime le taux de perte de 20 à 30% chez un fleuriste. Donc forcément, sur les 60 ou 70% qu'il va vendre, il doit se rattraper un minimum sur les prix pour pouvoir vivre à la fin du mois. À l'inverse, à l'extrême inverse, pour les supermarchés, quand on trouve un bouquet effectivement à 7 ou 10 euros, c'est des bouquets qui ont des provenances, donc des origines plutôt africaines, donc Éthiopie, Tanzanie, Kenya, avec des producteurs qui ne sont pas forcément les plus vertueux, qui font de la masse, hein, donc qui vont produire pour certains d'entre eux 300 000, 500 000, 1 million de fleurs par jour. Donc évidemment, les coûts d'achat sont très faibles. Et puis ensuite, ce n'est pas un bouquet qui est composé par un artisan fleuriste, donc le coût de la main-d'œuvre est plus limité. Par conséquent, on peut se retrouver avec des prix qui sont plus faibles.
Voilà. Vous réalisez combien de bouquets de commandes par jour?
Alors, c'est variable. Entre le lundi et le mercredi, ce n'est pas la même chose. Si c'est une période de vacances ou non, ce n'est pas la même chose. Donc, on a une vraie fluctuation de nos commandes. Globalement, on réalise entre 600 et 1500 bouquets par jour.
Et quel jour il y a le plus de commandes?
Le lundi.
Ah oui?
Ouais. Le lundi, les gens reviennent au bureau, ils sont déprimés, ils ont besoin d'avoir des fleurs pour se faire du bien, se faire plaisir. Ils remercient leurs copains qui les ont invités pour le week-end ou les beaux-parents. Ouais. Donc le lundi, c'est une super journée. Et la plus creuse, c'est le vendredi après-midi. On est déjà en week-end, tout le monde est déjà très concentré sur ce qu'il va faire demain.
Et il y a des périodes plus propices, des saisons?
Oui.
J'imagine.
Dès qu'il fait chaud, c'est pas génial. Hein, forcément, il y a aussi cette peur, cette crainte de la tenue en vase. Les gens sont beaucoup dehors, donc on profite moins de nos intérieurs. Donc c'est plutôt l'hiver et le printemps qui est vraiment une période géniale pour les fleurs. Et je pense que c'est aussi le besoin des clientes, c'est de se dire, voilà, le printemps arrive, on sort de 4 ou 5 mois de grisaille, on a besoin de couleurs, on a besoin de se faire plaisir chez nous.
Vous livrez vos bouquets dans des cônes en carton. C'était du jamais vu. C'est pour le style ou c'est plutôt le côté écolo du carton ou les deux?
Alors, c'est tous nos bouquets qui sont livrés comme ça. Donc, c'est le cône bergamote. Hein, c'est inspiré de la pochette surprise de notre enfance. Et en fait, on trouvait que c'était vraiment pas pratique. La bulle d'eau, on avait le bouquet sous le bras, ça tombait, c'était galère. On ne pouvait pas en avoir deux ou trois parce qu'il fallait, plusieurs personnes pour les porter. Donc, en fait, on a d'abord abordé la question sous le prisme de la praticité. On a envie que les livreurs soient à l'aise avec, on a envie que les clientes soient à l'aise avec quand elles vont à un dîner, pouvoir l'apporter facilement, pouvoir en prendre plusieurs. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, on avait envie que ça soit extrêmement sexy, distinctif, un peu comme un tote bag sympa qu'on pourrait voir dans le métro. Et en fait, c'est la même chose. Si vous faites le test, vous vous trimballez dans la rue avec un cône bergamote, les gens se retournent parce que ça, c'est intriguant. Au-delà d'être esthétique, c'est intriguant. Et c'est vraiment l'effet qu'on souhaitait rechercher. Et puis, bien sûr, pour une question ensuite de protection et d'emballage, c'est extrêmement important que le bouquet soit protégé.
Et les plantes, elles sont livrées dans des cartons fermés cette fois?
Oui.
Elles respirent bien dans leur carton?
Carton fermé, elles respirent super bien. On a aussi un système breveté. On est capable en fait de transporter une plante n'importe où en France jusqu'à 30 kg et 2,10 m de hauteur sans que la terre soit retournée, sans que les feuilles soient abîmées. À noter quand même qu'on travaille aussi uniquement avec des cartonniers français. Donc une partie de notre production est à La Courneuve, en Ile-de-France, avec une société de réinsertion. Et l'autre est à côté de Besançon, dans le Doubs. 70% du carton est issu d'une production recyclée, 100% en forêt PFC. Et 70% de nos cartons sont recyclables. Voilà, donc ça c'est extrêmement important aussi.
Donc on en parle là, vous êtes lancé aussi dans la vente de plantes. Mmh. J'imagine que ce n'est pas exactement le même marché, qu'il a fallu trouver des nouveaux producteurs. La livraison d'une plante verte de 2 mètres, ce n'est quand même pas la même chose. Donc, c'est une très belle idée. Mais pourquoi se lancer dans la plante?
c'est le cas de le dire, c'était extrêmement compliqué. Le principe de départ, c'était de se dire, Bergamote, c'est pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Bergamote, c'était pour pas être enfermé dans un seul carcan ou segment de marché. Bergamote, c'est l'univers du végétal, c'est la nature au sens beaucoup plus large du terme. Et on savait très bien dès le départ qu'on allait commencer par les fleurs, mais qu'on allait petit à petit progresser vers d'autres gammes de produits. Je prends l'exemple des plantes, mais ça peut être aussi les fleurs séchées ou les accessoires, bien sûr. On en parlera peut-être tout à l'heure. On lance en septembre notre première gamme d'accessoires lifestyle. Et l'idée des plantes, en fait, c'était de se dire que c'était un complément parfait à l'achat du bouquet, que l'usage était certes un peu différent, c'est plutôt de la consommation personnelle que du cadeau, évidemment, mais que finalement, on s'inscrivait dans la même ADN, l'ADN de la nature, l'ADN du green, l'ADN du bien-être, de la décoration, de l'esthétique, de l'esthétisme, évidemment. Donc c'est vraiment un univers végétal au sens large du terme aujourd'hui.
Alors les fleurs séchées, transition toute trouvée, c'est également très tendance. Mm-hmm. Vous avez des fournisseurs ou vous les faites sécher vous-même ?
Alors la première année, on a été un peu surpris par l'ampleur du phénomène. Hein. On ne s'attendait pas à ce niveau-là d'intéressement. Donc on a bossé avec des intermédiaires, donc des grossistes qui font sécher eux-mêmes leurs fleurs. Et cette année, on a développé notre premier programme de fleurs séchées auprès de nos producteurs existants. Donc la récolte a lieu entre le 15 juin et le 15 août, donc à partir de septembre. On va avoir vraiment des fleurs uniques qu'on ne trouve pas chez les autres, qui ont été vraiment suivies et maternées par nos soins depuis le début.
Quelle plante acheter si on n'a pas la main verte ?
Hortense, la réponse est très simple. Toutes les plantes bergamote sont compatibles avec les gens qui n'ont pas la main verte. D'abord, il faut dire une chose, c'est que entretenir une plante, c'est pas de la physique nucléaire, malgré ce qu'on croit. Tout le monde a cette image-là. Oh, le petit cactus que j'avais sur mon bureau, je l'ai fait crever en 3 jours. Je m'étais acheté une super jolie plante qui est décédée en 1 mois. On est tout à fait d'accord. Et c'est effectivement une douleur de la part de tous nos clients. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation et d'évangélisation à faire. Et nous, ce qu'on fait chez Bergamote, c'est la première des choses, c'est on ne choisit que des variétés qui sont ultra résistantes. Donc vous avez des fiches, des guides pratiques sur le site qui vous expliquent si c'est adaptable ou compatible pour des pièces qui sont un peu à l'ombre, des pièces qui sont au contraire très exposées, le niveau d'eau requis pour chaque plante, l'ensoleillement nécessaire. Et finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une plante, elle a besoin d'énergie pour vivre. Et c'est très simple, c'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'excès d'eau. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dès qu'on commence à percevoir les premiers signaux, on rajoute de l'eau en se disant « ça va aller mieux ». En fait, pas du tout, parce que plus on rajoute de l'eau, plus on la noie. Donc, le principe est très simple. Vous mettez votre doigt sur le terreau et vous vérifiez. Si la terre est extrêmement sèche, vous arrosez. Et si la terre est encore humide, vous ne touchez pas. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la lumière. Il faut évidemment un minimum de lumière, c'est l'énergie qui permet de faire la photosynthèse, et donc de donner de l'énergie à chaque plante. Il faut une zone qui soit pas trop ombragée et pas trop exposée. Et puis vous faites des tests chez vous. Si au bout d'une semaine, vous voyez que les feuilles commencent un peu à jaunir, c'est un excès de soleil. Si au contraire, elles commencent à être un petit peu flétries, un petit peu abîmées, c'est un manque d'énergie. Donc vous la replacez dans une pièce un peu plus lumineuse. Et donc on accompagne vraiment tous nos clients grâce à un livret d'entretien que vous recevez avec chaque commande, grâce à des tutos en ligne, des vidéos qui permettent à chacun de comprendre en 10 minutes comment entretenir une plante. Voilà. Et c'est vraiment notre combat du moment, c'est de vous dire, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, ça va le faire.
Vous êtes combien dans l'équipe ?
On est un peu plus de 100 maintenant, donc on a 50 fleuristes et ensuite 50 personnes, principalement au marketing, bien sûr pas mal de développeurs informatiques, une grande partie au service client, et puis après des fonctions plus support comme la finance, les achats, les ressources humaines.
Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes assez présent, notamment sur Instagram. J'ai lu qu'Instagram générait 30% de vos commandes. Est-ce que c'est vrai ?
Ça a été le cas pendant très longtemps, les 2 premières années au moins. Là, évidemment, c'est normal, hein, l'influence d'Instagram commence à baisser. Ça reste néanmoins notre levier d'acquisition principal. C'est ce qui nous a permis d'émerger dès le départ. Très très vite, en faisant beaucoup de partenariats, beaucoup de collabs directement avec des influenceurs sur Instagram. Aujourd'hui, ça reste extrêmement important. C'est le médium qu'on adore, qu'on privilégie en permanence. On a une communauté qui est plutôt fidèle. On est bientôt à 150 000 followers, mais ça importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est aussi la qualité de l'audience. Et en fait, on le voit, on a une corrélation très forte entre ce qu'on va poster sur Instagram et les ventes de la journée. Donc, c'est encore la démonstration que Instagram est très, 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 très lié à Bergamote.
Vous en avez parlé plusieurs fois, vous avez fait des collabs avec des personnalités, par exemple Pierre Hermé ou Sarah Lavoine. Concrètement, ils ont fait quoi? Ils ont donné leur nom à un bouquet ou vous avez vraiment travaillé, créé quelque chose ensemble?
On crée, c'est indispensable. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec Pierre Hermé pour justement définir notre bouquet Fête des Mères. Donc en fait, on va chez eux avec 50, 60 fleurs d'une gamme colorielle qu'on a déjà prédéfinie. Et ensuite, on va créer à quatre mains, donc avec notre DA, Clémence, qui s'occupe de la partie confection des bouquets, création des bouquets, et avec le partenaire, Pierre Hermé, Sarah Lavoine, Morgane Cesalori. Pierre Hermé, par exemple, hier, voulait absolument qu'on trouve un feuillage qui s'appelle le cassis, parce qu'il a un lancement de macarons autour de cette saveur-là. Donc on est allé en urgence à Rungis pour pouvoir trouver du cassis. Voilà, donc c'est vraiment une co-création de marque, et c'est ce qu'on adore, parce que ces personnalités-là ne sont pas des techniciens de la fleur, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Parce que quand vous apprenez votre métier à l'école des fleuristes, on vous explique que c'est forcément des nombres impairs, que certaines fleurs ne vont pas ensemble, que certaines associations de couleurs ne fonctionnent pas. Nous, on a voulu complètement débloquer ça. Et donc, ce regard finalement presque candide sur les fleurs nous fait beaucoup de bien, parce qu'il apporte beaucoup d'autres choses, toujours avec le même critère d'exigence esthétique. Et ça, pour le coup, on peut leur faire confiance sur ça. Donc, c'est à chaque fois des succès. Tous les bouquets qu'on lance en collaboration sont toujours les best-sellers du site.
En fin d'année, vous avez ouvert Maison Bergamote.
Oui.
Vous proposez notamment des ateliers do-it-yourself, réaliser une couronne de fleurs, par exemple.
Oui.
C'est quand même important d'avoir une boutique physique.
Oui. Alors, c'est pas vraiment une boutique physique. Oui, c'est pour ça qu'on a appelé ça la maison. Ouais. C'est vraiment un lieu de rencontre et de découverte autour du végétal, des fleurs, des plantes, des fleurs séchées. Le principe de départ, c'était de se dire, on est une marque qui vit essentiellement sur Internet. Alors, ça a bien des avantages, mais ça a aussi un côté extrêmement frustrant, c'est que vous ne connaissez pas vos clients. Parce qu'on leur parle au téléphone, par mail, mais on ne les voit pas, on n'est pas capable d'appréhender leurs réactions, de connaître leurs besoins, leurs points d'amélioration. Et donc, le point de départ, c'était vraiment de se dire, partons à la rencontre de nos clients, et quel meilleur format que le format atelier, soirée privée, pour les membres, par exemple, ou des ateliers payants pour les gens qui ne sont pas membres du Flower Club. On fait 2 à 3 ateliers par semaine. Ça fonctionne super bien. C'est vraiment un tout petit comité. C'est 10 à 12 personnes maximum. Et on passe vraiment du temps avec nos clients, à la fois pour leur transmettre notre savoir-faire, pour qu'ils puissent reproduire des ateliers DIY à la maison, mais aussi pour se rencontrer, pour échanger autour de la marque et des valeurs communes qu'on peut véhiculer. Voilà. Et puis ensuite, c'est un lieu d'événements. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Donc, c'est plutôt les week-ends, parce que la semaine, c'est vraiment un atelier de production et de travail. Donc, on fait beaucoup d'événements. On fait des brocantes, par exemple, avec Celency. On a fait des vide dressing avec des blogueuses. On a fait des speed dating avec Appen. Des cabines de cosmétologie avec la marque Fresh. Voilà. Donc, on adore, en fait, sortir de cet univers végétal, travailler avec des marques pour s'entourer et créer ensemble quelque chose d'un peu inédit, un peu différenciant.
Alors, vous parlez très bien des fleurs, mais vous n'êtes pas fleuriste à la base. Comment vous avez appris le métier ?
J'y connaissais absolument rien. J'étais client, fleuriste boutique, toujours très impressionné par cet acte d'achat-là. Parce que vous rentrez dans une boutique pour laquelle vous ne connaissez rien. Et c'est rare, hein, finalement, quand on va dans une boutique de mode, de déco, dans un supermarché, enfin, peu importe, on a des notions de base. Dans la fleur, vous êtes totalement paumé. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une narcisse, une renoncule, un dahlia, un chrysanthème ? Vous ne savez pas. Deuxièmement, il n'y a pas de prix, très souvent. Chez les bons fleuristes, vous ne savez pas les prix qui sont affichés. Donc vous dites, oh là là, j'ai 30 euros de budget, à quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui ? Et donc j'avais toujours trouvé ça super intimidant, mais toujours très attiré par ça. Et il a bien fallu s'y mettre. Donc je me suis dit que si j'avais été capable avant de vendre des voyages à l'autre bout du monde, j'allais, sans être allé dans le pays, j'allais être capable de pouvoir vendre des fleurs. Donc il a fallu bosser énormément. On a passé franchement 6 mois à voyager, comprendre la filière, à comprendre les producteurs, comprendre l'horticulture de manière assez, assez détaillée, parce que ça reste un métier agricole, un métier de paysan, et donc il faut énormément bosser pour rattraper ce manque-là. Et puis surtout, il faut les acheter. Et acheter des fleurs, acheter des matières premières périssables, c'est extrêmement complexe, hein. C'est beaucoup plus compliqué que d'acheter un produit fini, parce que la pivoine que vous achetez mardi à votre producteur du Loir-et-Cher, il suffit qu'il ait plu pendant 3 jours entre mardi et vendredi. Vendredi, vous ne pouvez plus l'acheter chez lui, parce que la récolte est abîmée, donc il faut trouver des sources de remplacement. Moi, j'adore ça. Je ne peux plus vivre sans. Je ne sais pas si je suis devenu expert, en tout cas, je pense que j'ai des connaissances qui sont très très solides. Sur la partie achat, oui, ça c'est sûr, on est peu à faire ce métier en France. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on le maîtrise parfaitement de A à Z.
Vous avez eu quel parcours avant de lancer Bergamot ?
J'ai fait une école de commerce assez classique, j'ai pas mal voyagé, j'ai vécu 2 ans en Espagne pour mes études, j'ai vécu 1 an à Londres, 1 an en Australie, en rentrant à Paris en 2008 pour des raisons perso. Je trouve un boulot dans la publicité qui me plaît pas forcément. Le voyage me passionnait déjà énormément, donc je me suis dit, bah tiens, je vais allier l'utile à l'agréable. J'ai commencé à bosser dans une start-up toute jeune qui commençait, qui s'appelait Evaneos.com, qui est aujourd'hui un des leaders online du voyage. J'ai ensuite fait 2 ans chez Voyageurs du Monde. Et puis, j'ai lancé une première boîte en 2012 qui s'appelait Localhours.com, toujours dans le voyage, et qui s'occupait en fait d'offrir des expériences un peu hors du commun aux voyageurs étrangers en France. On avait facilement tendance à les considérer comme des touristes, ou comme des... finalement comme des portefeuilles et non pas comme des humains. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait leur offrir autre chose. On travaille notamment beaucoup avec eux sur la partie décoration. Beaucoup de visites des puces de Saint-Ouen. Il faut savoir que quand vous êtes étranger et que vous allez aux puces, c'est dramatique parce que vous vous faites arnaquer à tous les coins de rue. Et donc, on travaille beaucoup avec notamment des antiquaires ou des experts des arts déco pour les aider à trouver la pièce unique sans se faire arnaquer à 3 fois le prix. Et finalement, ça a fonctionné extrêmement bien. Jusqu'au jour où on a eu les attentats de Charlie Hebdo, et notre clientèle était américaine à 80%, donc forcément, du jour au lendemain, vous n'avez plus un seul client, et vous vous dites, la maison brûle, il faut faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le milieu végétal, dans le milieu floral. C'est un faisceau de pas mal de circonstances concordantes, et on s'est dit, un jour, mars 2015, 2 mois après les attentats, go, c'est ça qu'on veut faire de notre vie, quoi.
Pourquoi nous ?
Nous, parce qu'on est deux. C'est Loïc, qui s'occupe, lui, de toute la partie informatique, les développements, la technique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est extrêmement important aujourd'hui pour être capable de tenir cette promesse client. Il faut tout un tas de logiciels qui permettent de faire fonctionner les achats, la confection, la livraison, le site internet, bien sûr.
Vous vouliez faire quoi, petit ?
Petit, je voulais être entrepreneur. C'est pas très drôle parce que ça reste assez conventionnel, mais toute ma famille a toujours été très indépendante. Des grands-parents agriculteurs, des grands-parents papetiers, des parents qui travaillaient dans le monde du vin, dans le monde de l'informatique, mais toujours avec cette indépendance importante. Et dès le départ, je savais que c'était ce que je voulais faire. J'en avais l'intime conviction.
Alors, pour imaginer encore mieux vos journées, on va inventer une semaine type avec des créneaux et vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de faire.
Ouais.
Par exemple, que faites-vous le lundi à 9h ?
Le lundi à 9h, je commence ma journée que j'appelle la journée du docteur, la journée des consultations. Je vois tous les membres de l'équipe. Donc, en gros, c'est 9h, 9h15, 9h15, 9h45, 9h45, 10h30. J'essaie de voir presque toute l'équipe dirigeante, donc entre 8 et 12 personnes dans la journée. Donc, c'est vraiment la journée consultation.
Le mardi à 17h.
Le mardi à 17h, je suis à Berlin, dans le Kreuzberg, parce qu'on lance le site en Allemagne très prochainement, en juin. Et donc, je suis avec Lara Maria, notre super attachée de presse berlinoise, en train d'imaginer le lancement le plus idéal pour Bergamot là-bas.
Le mercredi à 13h.
Je suis toujours à Berlin. J'y vais généralement 2 jours, en train de déjeuner dans un concept store incroyable, comme seuls les Berlinois peuvent en inventer. La semaine dernière, j'étais dans un café qui vend des plantes et qui fait des kombucha. Donc, je ne connaissais pas le kombucha. C'est des boissons très très à la mode, notamment aux États-Unis, à base d'antibiotiques et de probiotiques qui permettent en fait d'avoir une flore intestinale parfaite. Voilà.
Le jeudi à 20h.
Le jeudi à 20h, je suis aux Pays-Bas très souvent, au moins 2 jeudis par mois. Et là, je suis à l'hôtel en train de boire un gin tonic avec nos acheteurs. Voilà, c'est le moment un peu de détente dans ma semaine avec eux.
Et le vendredi à 14h ?
Le vendredi à 14h, je suis au bureau en train de courir pour finaliser la semaine. Je récupère mes enfants à la crèche à 18h grand maximum le vendredi. Donc, je mets vraiment un point d'honneur à ce que tout soit soldé avant le week-end. Je bossais beaucoup avant le week-end. Depuis la naissance de ma deuxième fille, c'est terminé. Et donc, je suis dans une phase de rush intense pour tout finaliser.
Est-ce que vous rapportez toutes les semaines un bouquet à votre femme ou vous êtes blasé ou elle peut-être est blasée ?
ne serait pas contente que je dise ça, mais oui, elle est quand même un peu blasée. C'est vrai, je rapportais avant des bouquets toutes les semaines, j'en rapporte toujours. Mais maintenant, c'est ma fille, ma deuxième fille, Carmen, quand je rentre le soir, qui me dit « Papa, t'as pas rapporté les fleurs ?» Et c'est vrai que je vois son regard de déception intense dans ses yeux et je me dis « Non, mais c'est pas possible, je suis un mauvais père, il faut absolument... » Et donc j'ai une petite fille de Carmen qui a 2 ans et demi, qui est déjà extrêmement passionnée, qui fait la différence entre déjà plusieurs fleurs, qui adore aller dans les ateliers, et c'est génial de voir ça.
Est-ce que vous aimez la déco? Est-ce que vous y êtes sensible? Est-ce que c'est important pour vous?
Je ne l'étais pas du tout. Depuis Bergamote, je le suis devenu. Ma femme m'aide beaucoup aussi par rapport à ça. Ça devient hyper important pour nous. Je pense que tout est intimement lié, les fleurs, les plantes, la déco. Donc en ce moment, on est vraiment dans une phase très vintage. On passe beaucoup, beaucoup de temps à chiner. Plutôt en ligne, hein, parce qu'on est quand même très, très, très digital, elle et moi. Notamment, on a découvert une super marque qui restaure des armoires parisiennes sur mesure, donc vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir la forme, etc. Qui s'appelle Belette Petite, qui est vraiment top. Pareil sur des couverts anciens avec Blanche Platine, voilà, Pamono, Celency. Donc on passe beaucoup, beaucoup de temps sur ces sites-là. On va évidemment en brocante ou aux puces. C'est vraiment notre dada du moment, c'est le vintage.
Est-ce que vous avez une pièce préférée?
Oui, on a une pièce qu'on adore d'un designer qui s'appelle Jean-Marie Massot. Donc c'est une pièce assez unique, c'est un fauteuil sublime qui est déjà quelques années, qu'on a fait restaurer là, il y a pas longtemps.
Ouais. Quel est votre dernier achat déco?
Alors c'était hier, parce que là on déménage, donc on achète beaucoup en ce moment. On a acheté une paire de chaises Marcel Breuer sur CLNC. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir ce site si vous ne le connaissez pas.
Mais j'espère que les auditeurs le connaissent. C'est l'épisode numéro 1 de Décodeur. Est-ce qu'il y a un achat dont vous rêvez?
Oui, je pense qu'un jour, un fauteuil IMS me paraît être indispensable. Voilà. C'est hors budget pour le moment, mais ouais, on en rêve.
Il y a beaucoup de ponts là. Vous faites quoi pour vous détendre? Vous allez où pour vous ressourcer?
Alors moi j'ai pas mal de familles dans le sud-ouest, j'ai un papa qui habite au Cap Ferret, au bassin d'Arcachon, donc on y va beaucoup. Dès qu'on peut s'évader, on y va. Et ensuite on va beaucoup en Espagne, on est passionné d'Espagne, avec ma femme qui est d'origine espagnole. Donc là un peu moins parce qu'on a une très jeune deuxième petite fille qui a moins de 3 mois, mais là elle va être en âge de prendre l'avion, la première a déjà pris l'avion 30 fois. Donc on essaye de s'évader le plus souvent possible, on va beaucoup à Séville, on adore l'Andalousie, donc c'est vraiment l'évasion parfaite pour nous.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmille.
Okay.
Question à 2 euros, le prix d'un collier de nouilles. C'est bientôt la fête des mères. Et on a eu le débat ce week-end avec des amis, donc vous allez nous aider à trancher. Est-ce qu'un homme doit plutôt offrir un bouquet à sa mère parce que c'est sa maman ou à sa femme parce que c'est la mère de ses enfants?
La réponse est assez évidente, Hortense. Aux deux.
J'étais sûre que vous alliez me dire ça. Question à 109 euros, le prix d'un billet pour l'île de Ré. Va y avoir des ponts, je viens d'en parler. Est-ce que vous avez des tips pour que nos plantes ne meurent pas en notre absence? Ce sont les tips que vous nous avez donnés tout à l'heure.
Oui, et en plus de ça, la bulle d'arrosage, c'est top. Ça coûte 5 euros ou 3 euros, c'est extrêmement simple. Et ça permet en fait de réguler la quantité d'eau que vous allez pouvoir apporter à vos plantes. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est essayer de ne pas fermer les volets. Si vous le pouvez, si vous n'avez pas trop peur des cambriolages, gardez un minimum de lumière naturelle chez vous, parce que forcément, sans lumière, sans énergie, c'est compliqué.
Question à 39,90 €, le prix d'un bouquet fesses chez Bergamote. Est-ce qu'il y a des petits mots glissés dans les bouquets qui vous ont déjà bien fait rire, qui vous ont marqué et que vous pourriez partager avec nous?
Alors, c'est pas très RGPD, tout ça. En fait, on les contrôle quand même. Pourquoi? Parce que parfois, on a des messages déplacés. On peut avoir du harcèlement. On a eu déjà plusieurs plaintes. Donc, on les vérifie. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement drôle de voir les messages qui peuvent être apportés pour la Saint-Valentin, notamment. C'est touchant, émouvant, drôle. Et je trouve que les plus touchants, c'est ceux pour la fête des grands-mères, qui est une fête importante dans les fleurs. Et surtout le surnom des grands-mères. Vous vous rendez compte qu'il y a des infinies possibilités, quoi. Et ça, c'est assez génial. Voilà.
Merci beaucoup, Romain.
Merci, Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.